La Grande Bibliothèque a 20 ans, celle qui a appelé à sa création et qui a été mandatée pour le faire, la journaliste et autrice Lise Bissonnette vient de publier avec 5 collègues l'essai BANQ, Vision pour une institution phare, c'est aux presses de l'Université de Montréal. 20 ans après la fusion qui a donné naissance à ce géant culturel, nous revenons avec elle sur l'héritage et les turbulences de ce projet que vous, Lise Bissonnette, bienvenue à l'émission, vous avez porté donc
Bonjour.
Ce projet. Ça va bien?
Oui.
Oui, je suis très content de vous avoir à l'émission. Alors, vous avez porté ce projet, Lise Bissonnette, à l'époque de la fusion de la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque nationale et la Grande Bibliothèque. On parlait d'un mariage de raisons forcées. Et avec le recul, c'est quoi le sacrifice qui a été le plus difficile à consentir pour faire accepter ce modèle unique au monde, j'allais pour dire, Archives nationales et la Bibliothèque?
Ben, je n'ai pas un souvenir particulièrement douloureux de cette époque-là.
Ouais.
Parce que là, il faut remonter dans le temps, en fait. La Grande Bibliothèque, c'est un édifice, hein, bon, maintenant. Et puis, mais quand on l'a créé, la Grande Bibliothèque du Québec, à l'époque, ça n'était qu'une grande bibliothèque publique qui reprenait à son compte une partie de la Bibliothèque nationale, celle qui était destinée au public. Ça, c'est un peu trop compliqué à expliquer.
Ouais.
Mais parce que, en fait, l'institution dont nous parlons dans cet ouvrage-là, dont je suis particulièrement fière, je dois dire, ces bibliothèques et archives nationales du Québec, ça part de 1910 à nos jours. Et
oui.
C'est une suite de fusions. D'abord de création qui s'est faite presque sans que l'État s'en occupe jusqu'à ce que... À chaque fois, l'État a toujours répondu par une loi, mais ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas les grands acteurs politiques qui ont été à l'origine du développement de cette institution extraordinaire, mais c'est toujours venu de personnes qui y tenaient et de mouvements citoyens et autres. Et finalement, on arrive de fusion en fusion. Et je dois dire que les fusions se font, même s'il y a parfois des réactions négatives ou positives, parce que dans certains milieux, on s'inquiète ou pas, il n'y a pas de crise là-dedans. Il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord. Mais au total, ça s'est produit tout simplement parce que ça devait se produire, puis ensuite qu'on devait le faire, en fait, le gérer et l'organiser et le vouloir. Au total, ça donne une institution qui est assez unique en son genre parce que c'est un des seuls endroits dans le monde où vous avez à la fois une grande bibliothèque publique, au sens là, des bibliothèques publiques normales, là, donc qui s'adressent au grand public et qui sont des bibliothèques de prêt de toutes sortes. Hein. Aujourd'hui, c'est le numérique autant que l'imprimé. Et aussi une grande bibliothèque nationale qui elle-même est associée à une grande institution que sont les archives nationales. C'est un modèle qui n'est pas fréquent, mais on a vu quand même des mouvements semblables ailleurs dans le monde au cours des dernières années. Que ces rapprochements sont de plus en plus souhaités parce que, évidemment, les frontières entre les disciplines changent. Mais je vous dis que personnellement, moi, j'ai été à l'origine, évidemment, de la création de la Grande Bibliothèque et ensuite, j'ai piloté les projets de fusion avec la Bibliothèque nationale et avec les Archives nationales. Mais ça s'est passé relativement bien. Ce qui nous amène à publier ce livre aujourd'hui, c'est avec 5 collègues, ce sont des sommités dans leur domaine. Là. Moi, je suis la généraliste dans l'endroit, mais bibliothécaires, archivistes, historiens qui ont été liés à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales. Ce qui nous amène là, c'est une grande inquiétude.
Oui. Ben, allons-y justement, parce qu'il y a eu, d'abord depuis dans ces 20 ans-là, mis à part que c'était une fusion qui a quand même eu des succès, on voit les taux de fréquentation, que ce soit en ligne, et puis malgré le fameux épisode de la COVID, il y a eu quand même des bons côtés, mais il y a eu des ratés, si je comprends bien.
C'est-à-dire qu'il y a il y a dans l'ensemble de ce qui se passe dans cette institution actuellement une forme de stagnation. On va revenir un instant, si vous voulez bien, sur la raison ce qui nous a déclenché chez nous l'idée de publier ce livre et justement de documenter un peu le problème que vous évoquez. C'est l'épisode, et je ne reviendrai pas longtemps là-dessus, là, l'épisode de 2024-2025, le moment où Hydro-Québec décide de s'approprier le terrain libre qui appartient à la Grande Bibliothèque et qui était gardé en réserve pour des projets d'avenir, et d'installer là-dessus un monstrueux poste électrique qui aurait non seulement gâché l'avenir de la Grande Bibliothèque, mais aussi tout celui du Quartier Latin comme quartier culturel. Et là, vous avez une mobilisation, on n'a pas vu ça souvent, hein, oui. Que des gens se mobilisent autour de non seulement de la Grande Bibliothèque, mais tout à coup de BNQ. On s'est rendu compte, tous ceux d'entre nous qui ont participé à cette résistance, à quel point, et puis j'ai pas été la première surprise parce que je m'en doutais, mais tout de même, à quel point les gens ignoraient ce qu'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Faut pas oublier là que c'est le premier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, c'est le premier établissement culturel du Québec. Ça vaut par la diversité de ses missions, par sa présence sur le territoire, 11 établissements sur le territoire, plusieurs centaines d'employés, en fait près de 800, ben ça fluctue un peu. Les budgets qui dépassent tous les budgets des grands établissements culturels. Et y a rien d'étonnant dans ça, en fait. Hier, je disais que la Bibliothèque nationale de France se définit comme le premier établissement culturel de la France. C'est la réalité. Ouais. Or, comment se fait-il qu'on ne se mobilise pas autant que ça et qu'on ne s'inquiète pas autant de son avenir? Donc, on a voulu, nous, documenter les problèmes. Bien sûr, il y a c'est clairement, il y a une régression dans la fréquentation physique, là, si on peut dire les visites. Et ça, c'est inquiétant. Il y a une augmentation dans la fréquentation numérique, mais il y a beaucoup d'autres facteurs, en fait, comme les acquisitions, comme justement les budgets qui sont stagnants, les personnels qui c'est stagnant aussi. Et on voit que dans une sorte d'arrêt sur image, si vous voulez. Et le danger, si vous regardez, si les gens se donnent la peine de regarder ce livre qui est publié aux presses de l'Université de Montréal, auquel nous sommes très reconnaissants d'avoir procédé aussi rapidement, c'est la grande crainte que nous avons, si on veut la résumer, là, très, vous me permettrez d'être simpliste un peu. La grande crainte, c'est que l'institution qui est si extraordinaire, si importante, dont la mission culturelle est première, hein, c'est elle qui doit faire toute la promotion du patrimoine littéraire, historique et même scientifique du Québec. C'est elle qui est la dépositaire de tout ça et qui doit. Bon, c'est qu'elle ne doit pas se résumer à être simplement un dépôt. Moi, j'appelle ça parfois dans un de mes textes une station de service. D'autres disent ben une plateforme d'accès, ou d'autres disent, mais on s'aperçoit en se relisant qu'on a tous la même crainte, en fait, c'est que ça devienne simplement un dépôt, un endroit où on dépose les choses, puis on n'en fait pas la médiation, si vous voulez. On ne révèle pas aux Québécois et au monde, en fait, nos richesses patrimoniales, et on ne le révèle pas non plus auprès de la population qui pourrait y avoir accès. Il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de publication, il n'y a plus aucune exposition, je veux dire, à partir de nos fonds. Il n'y a plus aucune publication qui est interne. Il n'y a plus aucune direction de la recherche scientifique qui doit être en relation avec l'ensemble des chercheurs au Québec qui utilisent toutes ces ressources pour faire des choses dynamiques, si vous voulez, et pas simplement se contenter de dire « Venez chez nous si vous avez besoin d'un papier ou d'un document ou d'un renseignement. » Et c'est ça la grande, grande crainte qui nous habite actuellement, parce que c'est surtout dans les circonstances actuelles, vous en comprenez bien, c'est qu'on est devant des défis énormes. Mmh. En passant, le gouvernement du Québec devrait, c'est une émission des Archives nationales, bien sûr, devrait revoir la loi sur les archives. Savez-vous de quand elle date? De 1983. C'était une loi absolument d'avant-garde en 1983. Elle était maintenant reconnue par le monde. Et maintenant, ben écoutez, en 1983, l'Internet n'existait même pas.
Ben oui.
Bon, alors donc, vous voyez la difficulté et l'usage par le public de la partie numérique des services est énorme, mais il y a aussi toutes les archives publiques qui dépendent des archives qui sont gérées aussi par cette loi sur les archives. Or, le ministre a ça sur son bureau depuis des mois et personne ne le pousse à l'action, et pas même les autres partis en passant. Hein, c'est pas seulement le gouvernement, c'est l'ensemble des partis politiques qui ont aucun intérêt pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est assez extraordinaire.
Je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est vraiment une institution qui est importante au Québec.
Oui, ça c'est très intéressant. J'ai essayé dans le premier chapitre oui. du livre, que c'est celui que j'ai rédigé, de faire l'histoire politique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Nos collègues bibliothécaires historiens là, qui participent au livre font l'histoire de l'institution elle-même, là, les gens qui l'ont faite et ses grandes étapes et tout ça. Et moi, j'ai voulu faire l'histoire politique qui est un peu comment ça s'est passé de 1910 à nos jours. Et une chose qui est remarquable, c'est que c'est jamais le gouvernement qui le gouvernement ou les personnages politiques, si vous voulez, au début c'était des hommes politiques, maintenant c'est l'ensemble des personnes, qui prennent l'initiative. Ça vient toujours d'historiens, de chercheurs, de citoyens, qui se lancent et qui font. Bon, et puis petit à petit, le gouvernement prend acte de ça. On raconte, c'est assez amusant, que quand on a créé la Bibliothèque nationale comme société d'État, si vous voulez, on est au milieu des années 60. En fait, on n'a même pas fait d'inauguration. Vous comprenez? C'est que c'est pas considéré comme étant une mission de l'État et il n'y a personne qui en prend la charge politique, si vous voulez, qui le défend politiquement. On peut faire une petite exception pour les discours de Denis Baugeois, ils sont assez extraordinaires, mais il a été si peu longtemps ministre de la Culture qu'il n'a pas piloté lui-même des projets. Et vous me direz, je suis sûre, que vous allez me parler de Lucien Bouchard, parce oui. que c'est avec lui, évidemment, qu'on a créé la Grande Bibliothèque. Mais souvenez-vous que le projet de Grande Bibliothèque, au départ, qui était son projet, bien sûr, c'était le projet d'une grande bibliothèque publique. Montréal était presque une catastrophe. N'avait pas de bibliothèque publique digne de ce nom en Amérique du Nord. Et puis, le gouvernement a décidé que ce serait le gouvernement du Québec qui doterait Montréal d'une grande bibliothèque qui, elle, devrait servir publique, qui devrait servir la clientèle québécoise. Mais c'était pas une bibliothèque nationale, sauf par un aspect simplement. Et c'est par la suite que c'est devenu une bibliothèque nationale. Donc, le caractère bibliothèque et archives nationales n'a jamais été porté par l'État. Ce qui est très différent de ce qui s'est passé dans les pays qui sont nos mères patries, si vous voulez. Prenez la France, prenez la Grande-Bretagne, prenez même les États-Unis, indépendamment de Trump aujourd'hui, qui massacre tout. Là. Mais quand on regarde quel a été le rôle des autorités, en France, c'est Richelieu, c'est les rois. La même chose, évidemment, en Grande-Bretagne, ce sont les rois. Aux États-Unis, ce sont les présidents eux-mêmes qui sont des bibliophiles et qui disent « on va créer des... » Bon, on n'a rien vu de tel au Québec. Ça a toujours été un peu en parallèle et l'État prend acte des choses et dit « bon, oui, on va faire ça ».
En tout cas, les visionnaires vont dire on pourrait vous écouter pendant des heures de temps tellement c'est intéressant, mais on va devoir s'arrêter ici. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance d'entendre vos propos. Je rappelle donc ce livre qui est BANQ Vision pour une institution phare publié auprès de l'Université de Montréal. C'est un plaisir de vous recevoir et de vous lire à nouveau, Madame Bissonnette.
Oui, c'est un plaisir aussi d'en discuter avec vous. Comme vous voyez, c'est un sujet inépuisable.
J'adore. Merci beaucoup, Mme Bissonnette.
Merci. Merci. Merci, au revoir.
On revient après la pause.